France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. Dernier volet de notre série consacrée aux villes face aux risques climatiques après Los Angeles et Athènes face aux incendies, après les inondations dans les périphéries des villes d'Europe, après les capitales latino-américaines à sec, les villes côtières en Asie menacées de submersion.
C'est le mur qui sépare mon quartier de la mer. S'il n'y avait pas ce mur, l'eau inonderait toutes nos maisons. Mon objectif, c'est de quitter Jakarta avec ma famille pour nous installer plus en hauteur. Mais pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Même si on est bien conscient que Jakarta est en train de couler.
Je me suis habitué aux inondations, alors qu'avant, à chaque fois, je me mettais à trembler. Il y a 12 ans, j'ai failli me noyer et j'ai tout perdu.
À l'avenir, je veux quitter ce lieu, déménager dans un meilleur endroit avec un environnement plus confortable et surtout un environnement plus sûr. C'est souvent inondé ici, surtout en cas de forte pluie. Et en plus, l'eau est très sale.
10 cm par an. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, s'enfonce de 10 cm par an. 40% de la ville est aujourd'hui sous le niveau de la mer. Elle le sera à 95% d'ici en 2050, d'après les projections. Le gouvernement indonésien a pris en 2019 déjà la décision de déménager la capitale pour la soulager du poids de 2,5 millions de personnes. Elle ne sera plus sur l'île de Java, comme l'était Jakarta, mais sur celle de Bornéo et ne sera plus directement en bord de mer, mais pas loin. Et pour construire cette nouvelle capitale, Nusantara, censée être une ville verte, il a fallu détruire des hectares et des hectares de mangroves, cette forêt entre terre et mer. Si Jakarta est un exemple saisissant des près de 600 villes côtières dans le monde sans cesse menacées d'inondations jusqu'à la submersion, elle n'est pas la seule à payer aujourd'hui le prix à la fois du changement climatique, dont les pays d'Asie du Sud-Est sont loin d'être responsables par ailleurs, et des mauvais choix dans l'aménagement de leur territoire. Nous en parlons ce matin avec vous, Sylvie Fanchette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes membre de l'unité mixte de recherche CESMA, Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, qui est à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous, ainsi qu'à vous, Judy Kael Dietrich, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 3, membre du laboratoire Environnement, ville et société, et vous êtes en duplex depuis Lyon grâce à Chantal Nouvelot dans les studios de Radio France que je salue et que je remercie. Alors Judy Kael Dietrich, vous connaissez bien la ville de Jakarta, on peut commencer par elle, cette future ex-capitale de l'Indonésie que vous connaissez bien. Est-ce qu'on voit à l'œil nu qu'elle s'affaisse ?
Alors, on va pas voir à l'œil nu qu'elle s'affaisse. Par contre, très vite, quand on regarde un petit peu les quartiers populaires traditionnels, on voit surtout que les routes sont progressivement surélevées et que du coup, les maisons, elles sont plutôt en contrebas. Et on va avoir ces évolutions-là qui vont faire que pour gérer le quotidien d'inondations et de pression de l'eau, les maisons risquent d'être facilement inondées en deçà et on va progressivement surélever les routes, les infrastructures majeures.
Les conditions géologiques de Jakarta, ce n'est pas votre spécialité. Néanmoins, on sait quand même qu'elle se trouve à l'origine entre 0 et 4 mètres à peu près au-dessus du niveau de la mer, mais de moins en moins. Par conséquent,
c'est ça, c'est une des terres basses, c'est un marécage où a été construite la ville historiquement par les colons principalement. Et puis, c'est donc un gruyère en sous-sol, clairement. Et puis, très très bas, à l'époque, dans les années 50, les point haut, c'était autour de 9 mètres. Mais de fait, l'affaissement de la ville s'accélère. C'est quelque chose qui existe dans d'autres villes du monde, l'affaissement du sol et la subsidence. Mais c'est à Jakarta que la situation est la plus rapide et, entre autres, principalement due aux pratiques humaines, on va dire.
La subsidence et l'enfoncement des sols. Avant de parler des pratiques humaines, peut-être encore un mot sur cette subsidence, Sylvie Fanchette. Quand on parle de 10 cm par an, que la ville de Jakarta s'enfoncerait de 10 cm par an, j'imagine que c'est une moyenne et qu'il y a des endroits qui s'enfoncent beaucoup plus que d'autres.
Dans le cadre de Jakarta, oui, Jakarta, c'est vraiment l'épiphénomène. Mais ce qu'on
Pourquoi
trouve.
Pourquoi l'épiphénomène?
Parce que c'est une ville. En fait, c'est sur la zone côtière, surtout là où les gens pompent le plus de l'eau que ça s'affaisse. Mais vous avez ce phénomène, on le retrouve à Saigon, au Vietnam, on le retrouve dans toutes les villes deltaïques. L'idée à comprendre, c'est que les villes deltaïques sont des villes meubles.
Posées sur des deltas, donc, pour rappeler que...
Donc les deltas sont des zones alluviales, meubles, non fixées, non stabilisées. Et dès que vous pompez de l'eau ou vous pompez du pétrole, comme dans le cas, par exemple, dans le delta du Mississippi ou du Niger en Afrique, vous créez du vide et donc la nature a horreur du vide, donc il y a des enfoncements. Mais c'est pas uniquement le pompage de l'eau et du pétrole, c'est aussi le fait que dans ces métropoles asiatiques, de 20 voire 30 millions d'habitants dans les conurbation comme Jakarta, il y a un développement des aménagements de tours, de malls, des infrastructures routières très lourdes. Hein, et tout cela crée un poids, donc favorise l'enfoncement. C'est pas simplement la faute des gens qui vivent dans les kampungs, qui pompent l'eau parce qu'ils n'ont pas un accès à l'eau courante, mais c'est aussi beaucoup le fait des constructions de ces villes en hauteur. Et puis, il y a aussi la subsidence, c'est aussi une subsidence naturelle qui est faite par les deltas, ils s'enfoncent aussi sous leur poids. Hein. Mais aussi, et ça c'est un quatrième élément qu'on oublie un petit peu dont on oublie un petit peu de parler, c'est que les deltas ont besoin d'être nourris par des alluvions et la construction des barrages à l'amont des grands fleuves, notamment sur le Mékong. Hein, c'est vraiment un fleuve qui est énormément barré, notamment en Chine où se trouve sa source. Les barrages captent les alluvions et les alluvions ne sont plus transportées et nourrissent plus les barrages, nourrissent plus les deltas. Donc il y a un retrait. Il y a un retrait du trait de côte, comme on dit, et un arrêt de nourrissement. Donc, tout ça participe à l'érosion et la subsidence et à des deltas qui s'enfoncent et qui se rétrécissent.
Ce qui me donne l'occasion, une fois n'est pas coutume dans Culture Monde, d'établir un petit glossaire très rapide pour bien rappeler qu'à la fois un delta, c'est l'endroit de rencontre du fleuve et de la mer qui crée ses bras de fleuve comme les branches d'un arbre dégarnies de ses feuilles si on regarde vue du ciel. Donc c'est le cas de Jakarta qui est dans un delta. La subsidence, donc c'est l'enfoncement des sols, et les alluvions, ce sont ces dépôts de cailloux, de sable, de boue qui sont transportés par les eaux. Alors voilà pour juste redonner quelques peut-être évidences pour les géographes ou géologues qui nous écoutent, mais qui n'est pas aberrant de rappeler dans cette émission-là. Ce lent affaissement, quand est-ce qu'il a commencé, Judy-Kaël Dietrich, puisque vous dites l'une et l'autre qu'il n'est pas question que de changement climatique, mais aussi d'aménagement urbain très lourd. Déjà, est-ce que quand un immeuble est construit, que ce soit à Jakarta ou ailleurs, on évalue d'abord le poids qu'il fera et donc le poids qu'il pèsera sur le sol et les sous-sols? Et ensuite, quand est-ce que on a commencé à mesurer surtout cet affaissement?
Alors, depuis quand? C'est sans doute depuis l'origine, mais c'est les conditions naturelles géologiques d'un delta. Donc là, le fait que ce soit des zones en évolution, ça l'est depuis longtemps. La réalité, c'est que l'urbanisation extrêmement rapide de Jakarta s'est faite principalement à partir des années 45-50, quoi, à la fin de une fois la décolonisation actée. Et à ce moment-là, on a eu une explosion extrêmement rapide de la population. qui n'était de toute façon pas prévu, pas programmé par l'espace urbain au départ. Donc on a eu énormément d'installations informelles, de campons qui sont ajoutés. Et puis la construction d'une ville moderne, contemporaine, avec des grands aménagements, des grands équipements qui se sont ajoutés. Concrètement, et cela va s'ajouter avec évidemment tout ce dont on va avoir besoin pour les habitants. Et donc concrètement, l'exploitation des eaux souterraines est passée de 500 000 mètres cubes en 1940 à plus de 4 millions de mètres cubes en 2000. Donc, comme le disait Sylvie Fanchette juste avant, le fait de prélever de l'eau en sous-sol dans la nappe phréatique, ça va fragiliser le sol et contribuer à l'affaisser encore plus vite. Et le tout va, on va voir tous ces différents facteurs qui vont se combiner entre l'urbanisation, l'exploitation de l'eau et l'extraction des eaux souterraines, et puis surtout aussi les surfaces imperméabilisées, c'est-à-dire que l'essor de l'urbanisation va imperméabiliser les sols.
Donc
on est passé de 40% des surfaces imperméabilisées à Jakarta en 76 à 97% en 2020. Donc autant vous dire que l'eau ne peut plus s'infiltrer facilement sur les terres de Jakarta.
Donc ces nappes phréatiques ne se renouvellent pas aussi vite que le niveau des prélèvements, et vous le disiez l'une et l'autre, ce n'est pas que les populations de Jakarta, et d'ailleurs parmi les plus pauvres de certains quartiers les plus démunis de la ville, comme souvent le gouvernement l'indique, mais ce sont aussi les grosses entreprises qui vont pomper dans les sols. Alors, vous parliez du début de la décolonisation, Judicale Dietrich, comme étant le moment où où le développement urbain s'est fait beaucoup plus rapidement. Néanmoins, le choix de ces villes d'Asie qui sont à la fois en aval des fleuves et au bord de la mer, ça c'est un choix de la colonisation, Sylvie Fanchette.
Oui.
De les choisir comme capitale, que ce soit économique ou politique.
Donc, c'était des villes portuaires d'abord. Hein. Calcutta, Saigon ont été des villes qui avant étaient des villages de pêcheurs. Dans le cas de Calcutta, Saigon était, il y avait la partie chinoise Chulun qui était un village commerçant, une petite ville commerçante, mais beaucoup plus à l'intérieur des terres. Et au moment de la colonisation, il a fallu créer, puisque la colonisation, par principe, c'était son objectif, c'était de drainer les ressources des parties amont des fleuves, notamment pour Calcutta, toute la vallée du Gange, et notamment l'opium. Hein, il faut se rappeler, moi je suis en train de relire Amitav Ghosh la trilogie de Libis. Calcutta était vraiment au moment des années enfin du 19e siècle la ville qui drainait l'opium qui était envoyé en Chine via Canton, hein. Donc toutes ces villes étaient des villes portuaires, des villes très dynamiques qui drainaient les richesses de l'Interland pour les exporter. Et donc, elles ont été construites, ces villes portuaires ont été construites un petit peu à l'amont du fleuve parce que c'était impossible d'être sur la côte. Calcutta est à 200 km de son embouchure, Saigon est à peu près à 20 km. Donc, ces villes avaient surtout une vocation d'export. Hein. Et aussi, ils étaient dans un hinterland où il y avait une grande richesse de produits, hein, d'échanges aussi avec l'amont, hein, puisque c'était des villes où venaient des bateaux qui importaient. Et donc c'est ces échanges. Mais ce qui me paraît important à rappeler, c'est que cette dynamique commerciale est à l'origine du développement de ces villes et reste dans la logique de la mondialisation. Hein. Et ça, c'est pour ça que c'est très difficile maintenant de ralentir, parce que c'est leur fondement même.
Donc, est-ce que il se trouve qu'après avoir préparé cette émission, je pense que je ne me promènerai plus jamais dans les villes de la même façon. Cette fois, je me demanderai dans quelle mesure une ville peut peser sur la croûte terrestre, tout simplement. Il se trouve que Jakarta pèse très lourd. Encore une fois, est-ce que quand on construit un immeuble, on se demande à Jakarta comme ailleurs si cet immeuble va peser lourd et donc contribuer à un certain affaissement ? Est-ce que c'est une réflexion qui existe ?
Alors, sur le plan technique, il doit bien avoir des évaluations, puisque pour avoir un permis de construire, ces entreprises doivent quand même se soumettre à un certain nombre de règles. Mais il faut remettre dans le contexte de cette urbanisation de ces villes comprises comme des engins économiques, et on va dire des gros mots, du capitalisme, hein, de mettre à niveau ces villes mondiales en compétition. Et qui investit dans la construction de ces villes? Ce ne sont pas les gouvernements, ce sont des investisseurs étrangers qui financiarisent l'urbanisation. Et donc cette urbanisation, entre guillemets, peut être incontrôlée, puisque il n'y a pas de meilleur investissement que le résidentiel, que le real estate. Et on arrive à des situations aberrantes de construction de nouveaux quartiers qui sont vides. Les villes fantômes, les quartiers fantômes à Hanoï, c'est pas une figure de style. Hein. Il y a des quartiers qui sont construits sur des rizières à 3 récoltes par an et qui sont vides. Et qui sont vides parce que c'est juste de l'investissement. Et là, on se pose la question de la capacité des États, des municipalités à contrôler ces processus, alors qu'elles sont vraiment intégrées dans une mondialisation immaîtrisable.
Judy Caldietrich, vous souhaitiez réagir?
Oui, ben, en fait, la construction de les très grands buildings et grandes tours, c'est un modèle urbain qui dépasse l'Asie, mais que pour toute ville dite mondiale ou en passe de le devenir ou qui veut y paraître, doit produire ce type d'aménagement et ce type d'infrastructure pour les investisseurs privés, et c'est d'ailleurs eux qui vont les financer. Et les gouvernements publics vont financer une partie de leurs aménagements par des ventes de terrain pour pouvoir récupérer l'argent que eux doivent investir pour mettre en place les infrastructures. Mais ce qui se passe à Jakarta, c'est que comme on n'a pas assez d'eau propre qui peut être distribuée dans le réseau au départ, c'est-à-dire qu'il y a juste pas assez de ressources pour distribuer de l'eau dans toute la ville, la réponse, elle est d'aller dans le prélèvement de la nappe phréatique. Et il y a deux moyens de prélever. Il y a des petits pompages individuels, des maisons individuelles ou des petits immeubles qui vont à 20 ou 30 mètres. Et puis, il y a des pompages en très grande profondeur qui, eux, ne vont pouvoir être mis en place que par des grandes infrastructures, des forages. On parle de 150 mètres, 200 mètres de profondeur, donc ça se fait pas facilement. Et ça va être construit en lien avec ces grands buildings, ces grandes infrastructures, avec des arrangements en plus qui sont pas avec les mêmes ministères. Et donc, de fait, l'exploitation de l'eau et l'affaissement du sol va être accéléré par les prélèvements, et principalement par les prélèvements dans la nappe phréatique profonde, qui en plus est donc un approvisionnement en eau de qualité par rapport à celle qui est en supérieure, la nappe phréatique supérieure, qui est de meilleure qualité et qui est pas du tout soumis aux irrégularités de l'approvisionnement du réseau. Donc ça rajoute du confort.
Alors, avant de prendre cette décision de déplacer une partie de la capitale de Jakarta vers Nusantara, quels aménagements ont d'abord été essayés par les autorités indonésiennes? Est-ce que je vous pose la question, Sylvie Fanchette, est-ce que tout ce que, en général, toute la panoplie qu'utilisent les autorités dans des cas pareils, que ce soit les digues, les barrages, les îles artificielle, est-ce que tout ça a été essayé et dans quelle proportion?
Alors, le monument, parce que c'est vraiment un monument, qui a été proposé, suggéré et qui n'a pas pu être mis en place, c'était le fameux projet du Grand Garuda.
Hein. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Grand Garuda, c'est un projet suggéré par les ingénieurs néerlandais, hein. L'idée étant de fermer la baie de Jakarta avec un mur je ne me rappelle plus le nombre de kilomètres, mais au moins plus d'une vingtaine, c'est-à-dire...
Je crois que c'est 38 kilomètres, si c'est le mur
reproduire, qui a commencé à être... Reproduire le même phénomène qui a été mis en place en Hollande pour fermer la baie d'Amsterdam et après Paul Deriset. Donc l'idée était de fermer la baie pour que toute l'eau qui dévale du fleuve et des 11 rivières puisse se jeter dans cette baie et après être pompée. Mmh. Donc, d'une part, on se protège de l'élévation du niveau de la mer. En même temps, on évacue les eaux qui dévalent pendant la période des moussons du fleuve et des rivières. Et puis, pour financer le tout, eh ben, sur cet immense mur, on crée une espèce de CBD, de nouvelles zones urbaines en hauteur. Donc, ce qui paraît complètement aberrant, c'est-à-dire de recréer en bordure de mer un nouveau quartier qui permettrait de financer cet ouvrage, je ne sais plus, 40 milliards de dollars, enfin bon, en se posant pas spécialement la question des populations qui vivent au bord de la mer, donc toutes ces pêcheurs qui vont voir leur habitat complètement changé puisqu'on va passer de l'eau douce, de l'eau salée à l'eau douce, qui vont être bien sûr expulsés, avec tous les problèmes que peut créer l'envasement par les fleuves qui apportent des alluvions de cette baie, donc un avenir mitigé, avec en plus toute la pollution des eaux qui seraient jetées dans cette espèce de grand lac artificiel. Et donc ça, on voit, on est devant des délires technologiques.
Un délire technologique, Judicaël Dietrich, que le gouvernement a fini par laisser tomber ou pas? Il y a eu un début de mise en place et puis ça a l'air assez incertain.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, le projet a été lancé de manière complètement privée et puis ça a fait flop. Mais par contre, à partir de 2013-2015, le projet a été réactivé sous couvert d'environnement, c'est-à-dire sous couvert de l'argumentation de l'augmentation du niveau de l'eau et de la fragilité de la ville exposée régulièrement aux inondations. L'argument de la gestion de l'eau a été utilisé pour pouvoir développer ce grand projet intégré, très technosolutionniste, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Voilà. Et donc concrètement, c'est la construction au large à 2,5 km du rivage actuellement d'une digue qui serait parcourue par une voie rapide, par une autoroute. Hein. Donc c'est exactement le même modèle qui a été créé aux Pays-Bas. Et le problème, là encore, en repartant de Jakarta, c'est que on a très peu de systèmes d'assainissement qui tiennent la route. On n'a pas de système de gestion de l'eau qui tienne la route, ce qui fait que on risque de se retrouver avec un immense cloaque d'eau douce qui va être pollué, sachant que la baie de Jakarta, elle est déjà pas super saine. Donc c'est vraiment la création, là encore, de modèles urbains, un waterfront city comme on va avoir à Londres et ailleurs. C'est le projet de faire un front urbain de très grandes villes avec des immeubles de luxe, des espaces de loisirs, quelques forêts de mangroves pour faire bien et pour montrer que le projet il est vert. Et puis derrière on a toute la question du plan social qui n'est très peu traité. Hein, c'est 24 000 pêcheurs et 50 000 ouvriers qui sont en jeu, qui sont les ouvriers de la transformation des produits de la pêche, qui travaillent là, qui vivent là, et toute la question du relogement des populations qui vivent dans ces quartiers nord, sur pilotis, de manière très précaire, qui a été traitée en une ligne, hein, c'est on va faire du logement social, mais alors combien, où, comment, la question n'est pas du tout traitée.
C'est le nouveau Premier ministre indonésien Prabowo Subianto, qui a succédé en octobre à Joko Widodo, qui annonçait dans son programme vouloir construire une digue géante le long de la côte nord de Java. Il a même demandé à certains de ses conseillers de faire des allers-retours à Pékin pour solliciter des financements chinois, mais tout ça, on n'a pas beaucoup d'informations.
C'est sur 40 milliards de dollars. L'idée, c'est que l'Indonésie finance 11 milliards, mais derrière, il faut des investissements extérieurs pour pouvoir assurer ça. Et donc, le problème, c'est que dès 2019, avec le projet de nouvelle capitale, les permis de construction des polders et des premières îles artificielles ont été annulés aussi. Donc, pour le moment, on est vraiment en suspens en fonction de comment on va traiter ça, même si la centralité économique de Jakarta n'est pas remise en question, malgré le déplacement de la capitale.
Peut-être que le gouvernement indonésien a entendu les urbanistes de Jakarta qui disent que ce serait un antidouleur plutôt qu'un remède, tout comme les murs qui sont érigés dans les rues de Jakarta.
Ce mur est la seule barrière qui empêche l'eau de mer d'entrer. Il n'y a rien d'autre. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant, car tôt ou tard, l'eau montera encore plus. Bien sûr que j'ai peur, car nous sommes près du littoral. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous fier au gouvernement. C'est lui qui doit résoudre ce problème de la montée des eaux. Moi et ma famille, on a quand même anticipé. Nous avons prévu un lieu refuge où déménager si un jour ce mur s'effondre.
Un lieu refuge si un jour Jakarta s'effondre, dit cet habitant qui a peur que les murs ne soient pas suffisants pour le protéger, lui et sa famille. C'est l'extrait d'un reportage d'Arte, Indonésie, adieu Jakarta, qui a été diffusé en août dernier. Peut-être juste Sylvie Fanchette pour bien comprendre, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la position géographique de Jakarta qui la rend vulnérable à tout un tas de choses, et pas seulement à la montée des eaux, mais aussi, vous le disiez, ce delta où les alluvions ne se forment plus pour protéger la ville. Les inondations ont toujours existé, c'est-à-dire aussi loin qu'on s'en souvienne, à Jakarta, Jakarta a toujours été inondée.
Vous avez trois types d'inondations, hein, qui, parce que là, on parle de l'enfoncement, de la subsidence, parce que c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus médiatisé du fait du déménagement de la partie politique de la ville. Nous sommes en zone de mousson, de pluie de mousson, donc dans toute l'Asie du Sud-Est, que ça soit à Bangkok, Calcutta ou Saigon, c'est-à-dire entre 1500 et 2000 mm de pluie pendant la période, on va dire de notre été, hein, en période de juin à septembre. Donc vous avez ces pluies, vous avez ces villes sont au bord de fleuves. Avec le débordement des fleuves qui devient de plus en plus incertain, là, avec le changement climatique, hein, cette incertitude des pluviométries, mais aussi ce qu'on a du mal à imaginer, c'est la marée. La marée qui remonte dans la ville, qui pousse le fleuve, parfois 1, 2, 3 et à Canton parfois 8 mètres. 8 mètres de marée pendant les hautes marées. Donc quand vous avez la concordance entre ces trois phénomènes, les pluies, les débordements fluviaux, plus les grandes marées, donc à un moment, donc les fleuves ne peuvent plus drainer leurs eaux. Là, vous avez de très fortes inondations, et il est très difficile d'anticiper. Hein. Donc il y a toujours eu, et on est dans des régions où avant que l'on construise ces villes titanesques, enfin que ces villes deviennent titanesques, les gens vivaient avec l'inondation. Vous aviez des villes qui étaient un peu comme des Venises, où la place de l'eau était importante. Hanoï était considérée comme une ville-jardin. Bon, Hanoï était à l'apex du delta du fleuve Rouge, donc à plus de 100 km, mais c'est une ville très fortement impactée par l'eau, par le débordement du fleuve et par la pluie. À Saigon, dans la partie chinoise, à Cholun, vous aviez de nombreux canaux. La place de l'eau était très importante. Les canaux permettaient de circuler, mais permettaient aussi d'absorber, hein, une part des eaux de pluie, une part des débordements, et aussi les lacs. À Calcutta, vous avez au 19e siècle de nombreux lacs qui parsemaient, qui émaillaient la ville, et ces lacs étaient des zones qui permettaient d'absorber les surplus de pluie. Ces lacs et ces canaux, et certains de ces canaux ont été remblayés ou recouverts de routes, parce que la circulation ne se fait plus par canaux, mais se fait pas. Donc tout ça fait que la capacité d'absorption de ces inondations qui viennent du ciel, qui viennent du fleuve, qui viennent de la mer, deviennent de plus en plus limitées.
Avec donc ces populations qui avant savaient vivre avec les inondations, et aujourd'hui des pompiers qui, pendant les crues, doivent aspirer l'eau pour la rejeter dans la mer, ce côté Shadok qui est quand même hallucinant à observer vu de loin, et je dis vu de loin mais pas si de loin que ça, puisque la France est aussi concernée par cette montée des eaux. Pour le dire très vite, on a bien compris qu'il ne s'agissait pas que de montée des eaux mais aussi d'affaissement des sols à cause des aménagements. Alors Judicaël Dietrich, il faut bien comprendre que tous les habitants de Jakarta ne vont pas déménager dans la nouvelle capitale Nusantara. D'abord, qui va partir, qui va rester, et qu'est-ce qui est imaginé pour ceux qui vont devoir rester à Jakarta?
Alors, de fait, il y a Enfin, l'Indonésie, Jakarta, c'est 10-11 millions d'habitants, juste la province capitale, et c'est une agglomération de 30 millions d'habitants. C'est une des plus grandes villes du monde, littéralement. Et c'est vrai que le projet de nouvelle capitale de Nusantara vise à abriter environ 2 millions d'habitants à terme, mais ça, ce sera plutôt en 2045, quand tout sera construit et terminé, si ça, c'est terminé. Pour le moment, on n'a fait qu'une première phase, ce qui fait que devait être inauguré en août dernier, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Il y a eu une fête d'indépendance, mais il n'y a pas eu l'inauguration de la capitale à ce moment-là. En août dernier, c'était l'inauguration prévue avec environ 200 000 fonctionnaires qui devaient s'installer. Ce qui, finalement, n'est pas prévu pour le moment. Concrètement, l'idée, c'est de déplacer des fonctions administratives de capitale, donc pas du tout tout le système économique qui est rassemblé dans une métropole. Donc, à partir de cette nouvelle capitale, créer des centres d'innovation. Hein, je reprends le discours du l'ancien président, c'est créer un centre d'innovation technique, industriel et de haute technologie pour développer l'industrie verte parce que le modèle de cette nouvelle ville, c'est de faire une ville verte dans la forêt, une ville éponge qui va gérer justement la question de l'eau. Et donc on a vraiment en contrepoint de Jakarta tout ce que Jakarta n'est pas, qu'on va essayer de construire à Nusantara en respectant la mangrove, en étant sur des espaces beaucoup moins denses qui permettent de maintenir une absorption, ce qui, l'air de rien, n'est pas du tout anodin dans un endroit où, comme l'a dit Sylvie Fanchette, on est dans une zone tropicale et équatoriale, ça veut dire beaucoup de moustiques. Donc, maintenir l'eau et la forêt dans la ville, c'est pas du tout anodin.
Ma famille et notamment ma femme travaillent pour le gouvernement. Elle est fonctionnaire dans l'un des bureaux nationaux de Jakarta. Mais ce n'est pas clair pour nous. On ne sait pas quel département, dans quel ministère vont déménager ou non dans les unités gouvernementales de la nouvelle capitale. Pour l'instant, on sait qu'ils ont pu construire les complexes d'habitation pour le ministère, mais pour les autres travailleurs, ce n'est vraiment pas clair. Si ce sont toutes les familles qui déménagent, la première chose à laquelle on pense en tant que famille de fonctionnaires, c'est l'éducation et les quartiers de vie aussi. La question de l'éducation n'a pour l'instant aucune réponse de la part du gouvernement, qui est pourtant responsable de ce déménagement.
Un habitant de Jakarta qui a fait le choix de déménager à Nusantara, c'est l'extrait d'un grand reportage de Juliette Pietraszewski, diffusé sur France Culture l'année dernière. Alors, on s'éloigne un petit peu des enjeux d'eau, mais il me semble, Judicaël Dietrich, que quand vous évoquiez tous les enjeux autour de Nusantara, il y avait une forme de, non pas d'ironie, mais de grande méfiance, en tout cas par rapport au discours qui est fait du gouvernement indonésien, que de dire on va faire une ville verte. Est-ce que ça règle la question de l'eau? Parce que comment on va protéger cette ville-là qui n'est pas en bord de mer, mais pas loin? Comment on va la préserver des inondations de la montée des eaux?
Alors, le projet urbain de la nouvelle capitale, c'est une innovation qui est portée par un bureau d'études qui travaille dans d'autres très grandes villes du monde et asiatiques, et notamment de Singapour, qui va être capable justement de mettre en... de réaliser concrètement ce projet-là, sauf que le bureau d'études coûte tellement cher qu'il a réussi à faire le projet, mais qu'il va pas le mettre en œuvre. Donc, pour le moment, le gouvernement essaye de poursuivre le projet, mais ce qu'ont constaté les collègues qui sont allés sur place, c'est qu'on est plutôt en train de reproduire à peu près les mêmes modèles urbains que ce qu'on connaît, c'est-à-dire des maisons de ministres qui sont prévues, mais qui sont pleines de climatisation, parce que on a l'habitude de vivre avec les fenêtres fermées désormais en Indonésie. Donc c'est l'idée aussi, c'est une ville éponge, donc beaucoup moins dense, qui permettrait l'absorption de l'eau dans les sols, pour pas reproduire le problème de l'imperméabilisation à Jakarta. Mais là encore, à quel point? Et la réalité, hein, c'est que le projet de Nusantara vise à être une très très grande ville de 24 fois la surface de Paris, pour qu'on ait une idée un petit peu. Donc elle va être très 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 étendue. Et pour le moment, c'est un îlot un peu au milieu de nulle part. Hein. C'est censé être à 2 heures d'une grande ville à côté, Balikpapan, mais qui en fait est à 4h30 actuellement parce que ce n'est qu'une piste, et que à peu près tous les ouvriers, maîtres d'œuvre, enfin il y a ceux qui travaillent toute la semaine, mais tous les week-ends pour le moment, tout le monde repart à Balikpapan parce que c'est là qu'il y a la ville, c'est là qu'il y a à manger, c'est là qu'il y a tout ce qui va permettre de faire une ville, ce qu'est une ville, c'est-à-dire la vie sociale, la vie culturelle, la vie éducative qui a été soulignée évidemment, c'est que pour le moment, on a envisagé que les fonctions politique sans prendre en charge toutes les autres dimensions de la vie urbaine.
Donc quitter l'île de Java, la plus riche, pour l'île de Bornéo, c'est aussi un projet politique sous couvert, comme vous le dites l'une et l'autre, de dérèglement climatique. On apporte une forme de réponse politique, on rapproche aussi des îles périphériques, incarner l'unité dans la diversité. Après tout, c'est le slogan de l'Indonésie que le gouvernement essaye de mettre en œuvre en déplaçant la capitale. Et pendant ce temps, Sylvie Fanchette, qu'est-ce qui est envisagé pour les 8 millions de personnes qui vont rester à Jakarta? Est-ce qu'on va dédensifier pour commencer? Est-ce qu'on va détruire des immeubles? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est prévu d'être fait?
Alors, le sujet de la ville de Jakarta, je la connais un petit peu moins que Calcutta, Saigon ou Hanoï ou Canton. Ce que je peux dire sur les alternatives ou les solutions mises en place dans un certain nombre de villes, c'est que vous avez plusieurs pratiques. Vous avez d'abord la protection. Donc ça, c'est le tout engineering, c'est-à-dire on protège des zones avec des digues, mais à un coût très élevé. Et on a vu que la proposition qui avait été faite pour Jakarta est aberrante vu son coût. Tout en sachant que c'est des solutions à court terme, puisqu'il y a des phénomènes assez contradictoires. À partir du moment où vous créez une défense, donc une digue, vous créez un faux sentiment de protection, et donc les populations donc il va avoir des aménagements urbains, et en cas de brèche, en cas de rupture de ces digues, une plus grande population sera exposée. C'est ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans lors de l'ouragan Katrina. On a vu que, et en plus, les digues, ce sont des solutions à court terme, dans le sens où elles s'enfoncent. Hein. Elles doivent toujours être remises à niveau, donc demandent plus de place pour être stabilisées. Donc ça veut dire, dans ces zones qui sont très denses, puisqu'il y a ce sentiment de protection, il est très difficile de déloger les populations pour élargir les digues. Vous avez aussi des murs de protection comme il y a à Alexandrie. Bon, là, on change de continent, mais le mur, il est sur une zone instable, il ne fait que s'enfoncer, et c'est toujours l'histoire des shadocks. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, ça veut dire que on essaye de trouver des solutions par quartier, les communautés. Soit on surélève l'habitat, on surélève les routes, maisons sur pilotis, on améliore les systèmes d'alerte, on crée des lieux en cas de cyclone, des abris. Hein. Donc, en fait, on est un petit peu dans le bricolage, mais le bricolage est important parce qu'il a un coût différent. Mais moi, ce qui me paraît très intéressant, bon, bien sûr, il y a cette question du retrait, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'adaptation transformative.
En okay. quelques mots,
qu'est-ce que l'adaptation transformative, c'est-à-dire que on change plus ou moins de système de développement urbain, et on crée une adaptation qui va transformer la ville au fur et à mesure.
Et est-ce que c'est ou pas ce qui s'est mis en place en Thaïlande? On va le voir, puisque la Thaïlande semble avoir pris la mesure de la chose il y a plus longtemps que les autres. Est-ce que, pour autant, ce qui a été mis en place, ce sont de bonnes solutions? On le verra juste après cette musique d'un groupe de Bangkok, Slot Machine.
Some pun right to die on.
Un groupe qui connaît un grand succès en Thaïlande qui s'appelle Slot Machine et qui a notamment fait la bande originale d'une série thaïlandaise Kin Porsche. C'est un groupe qui vient de Bangkok. Bangkok qui justement tente de limiter l'affaissement de son sol.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les gens sont partis chaque fois que leurs maisons ont été détruites par l'eau. Mais nous, on va lutter. On ne part nulle part. Avant, on vivait au niveau du sol. Mais comme l'eau est arrivée, on a monté notre maison d'un mètre. Et puis maintenant de 2 mètres.
La capitale de la Thaïlande, Bangkok, est située à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de l'eau. Elle s'est aussi affaissée sous l'effet notamment des pompages incessants de l'eau souterraine. Mais des chercheurs ont donné l'alerte dès les années 70 et ils ont été en partie entendus. Il est 17h40 à Bangkok. Bonjour Thanawat Bremar.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences sociales, membre du laboratoire GOEAU à l'Université de Montpellier et vous venez de soutenir votre thèse sur la gouvernance de l'eau à Bangkok. Quand cette ville a-t-elle réalisé qu'elle était en train de s'affaisser ?
Alors, le pompage dans cette ville commençait déjà depuis les années 50, mais on a commencé à réaliser le problème de l'affaissement à partir de la fin des années 60, notamment avec un chercheur de l'université de l'AIT, l'Asian Institute of Technology, en 68, qui commençait à tirer la sonnette d'alarme sur le taux de subsidence à Bangkok.
Et en suggérant tout de suite les raisons pour lesquelles la ville était en train de s'affaisser ?
Alors, c'était pas aussi...
évident.
La corrélation n'était pas immédiatement claire entre le pompage souterrain et l'affaissement de la ville. Comme Sylvie et Julie Kael l'avaient évoqué tout à l'heure, il y a d'autres facteurs qui d'abord avaient été discutés. On se demandait si c'était un taux naturel, est-ce que c'était aussi le poids du bâti. Mais finalement, il y a une série d'études donc, menées par... de grandes universités, de grands départements en Thaïlande, entre les années 78 et 81, qui ont permis de confirmer cette corrélation entre le pompage, l'origine humaine de l'affaissement.
Et alors, qui pompe l'eau et depuis quand est-ce que la municipalité de Bangkok, par exemple, a toujours pompé l'eau souterraine pour la desserte de ses habitants ?
Oui, alors, effectivement, vous posez une question qui est importante. C'est que l'eau a été une ressource cruciale pour le développement de Bangkok, son expansion urbaine qui a explosé à partir des années 60. Donc au départ, pour accompagner ce boom démographique dans la ville, lorsque l'eau de la rivière ne suffisait pas pour la consommation domestique, les municipalités ont effectivement commencé à faire des forages sur des puits pas trop profonds, mais ça a commencé. Donc, on a des registres pour les puits publics qui sont datés depuis les années 50. Pour le privé, on n'a pas trop de données, mais on sait que c'est à partir du milieu des années 70 que là, le pompage privé, ce qui vient donc notamment du boom du secteur des services industriels et tous les lotissements pour accueillir cette nouvelle population qui continue de s'agglomérer autour de Bangkok. Et c'est donc au milieu des années 70 que le pompage privé dépasse la quantité de pompage public.
Les responsables thaïlandais vont prendre des mesures d'ailleurs dès les années 80, interdire toutes les pompes sans permis, alors avec quelques exceptions qui concernent notamment les industries d'eau minérale et les métiers à tisser. Mais est-ce que les différentes mesures prises à partir de ce moment-là ont permis de ralentir l'affaissement de Bangkok ?
Alors, l'implémentation des mesures n'a pas eu un effet immédiat sur le ralentissement de l'affaissement. Parce qu'il faut savoir que même si le phénomène a été constaté donc en 68, ce n'est qu'en 1977 qu'on a pu commencer à réguler l'utilisation des eaux souterraines. Parce que jusque-là, c'était l'Eldorado, n'importe qui pouvait s'approprier cette ressource. Et donc en 77, on publie la loi sur les eaux souterraines. Et c'est en 83 qu'on commence à sortir la première batterie de mesures, donc notamment l'établissement de zones critiques dans lesquelles le pompage est interdit sans l'obtention au préalable d'un permis de pompage.
Mais et sur les effets aussi sur les pardon. Effets, pardon, juste pour savoir si vraiment aujourd'hui on sait si l'affaissement s'est stabilisé.
Alors, il s'est stabilisé qu'à partir des années 2000, parce qu'en fait, malgré l'implémentation des mesures, le pompage a continué d'augmenter et c'était notamment une résistance du lobby industriel qui mettait en avant l'importance de la ressource souterraine pour le développement économique de Bangkok et de la nation dans sa totalité. Et donc jusqu'en 1998, le taux a continué d'augmenter. Et en 1997, on a eu la crise économique asiatique qui est devenu ralentir ce surcroît de développement industriel et économique. Et c'est après que ces industries se sont déplacées, excentrées. Donc, dans Bangkok, le taux s'est ralenti et est devenu stable à la fin des années 2000.
Donc, ça a un petit peu soulagé le poids de la ville. Et donc, entend bien, on mesure bien à vous écouter, Thanawat Bremar, qu'une crise financière qui devient d'ailleurs une crise économique et sociale en 97 en Thaïlande, ces aléas économiques ont un effet sur le poids que pèse la ville, sur la pression aussi qu'elle fait subir à ses sous-sols. Peut-être pour conclure, il y a néanmoins des prises de conscience un peu partout, des villages de pêcheurs aussi près de Bangkok dont les habitants se préparent à partir dans les prochaines années.
Oui, alors la pression, on va dire, sur les habitations locales, comme le mentionnait Sylvie tout à l'heure, il y a une réunion de circonstances, à la fois en raison de l'érosion du trait côtier, mais de la subsidence anthropique et aussi la montée des eaux qui mettent en péril ces habitants. Moins dans le cas de Bangkok, mais plutôt sur les provinces, donc en périphérie de Bangkok, et notamment les provinces de Samut Prakan et Samut Sakorn, qui se trouvent de plus en plus menacées par l'emprise de l'eau.
D'accord. Le journal canadien La Presse, par exemple, est allé dans le village de Ban Kun Samut, où un habitant veut faire du temple de son village un monument à la mémoire des effets du réchauffement climatique. Alors, il a pour ça demandé de l'aide par les réseaux sociaux. Le temple a perçu des centaines de milliers de dollars, mais qui n'ont servi qu'à construire une réplique du temple et à protéger de la submersion. Les restaurants du village ont demandé une digue. Nous avons eu des magasins de souvenirs, dit cet habitant. Merci beaucoup, Thanawat Bremar, d'avoir été avec nous, docteur en sciences sociales, membre du laboratoire Géo à l'Université de Montpellier. Vous venez de soutenir votre thèse sur la gouvernance de l'eau à Bangkok. Sylvie Fanchette, est-ce que le cas de Bangkok vous évoque d'autres exemples que vous connaissez très bien, qu'elle soit au bord de la mer ou dans le détail d'un fleuve? Une ville ne peut pas se penser en dehors de toutes les autres villes qui sont soit ses voisines, soit riveraines du même fleuve. C'est le cas notamment de ces villages autour de Bangkok.
En effet, parce que nous sommes dans un delta où toutes les villes et les villages sont connectés par l'eau et on ne peut pas, quand on aborde la question de l'eau et de son réseau, intervenir qu'à un seul endroit. Donc là, on a vu que les industries se déplacent, mais elles déplacent le problème dans d'autres zones et elles étendent en fait l'influence de la ville. Donc c'est un travail à plusieurs échelles qui doit être compris. Donc ça implique une gouvernance des mégapoles, mais aussi avec les provinces des alentours, étant donné que l'eau n'a pas de frontières. Mais ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que on est sur des cas de villes très différents, avec des enjeux très forts liés aux inondations. Ça, c'est un enjeu qui est partagé. Et pour agir, il faut agir sur trois fonds concomitants. La diminution du risque, donc la diminution de l'impact des aléas, donc à la fois par des systèmes de protection, mais aussi par limiter l'impact de l'urbanisation sur les zones humides. Après, il y a plus adapter l'adaptation. Et enfin, il y a les projets de ville. Est-ce qu'on va continuer avec des villes tentaculaires, financées par des investissements qui n'ont pas d'autre intérêt qu'un retour rapide de leurs investissements?
Judy Caldietrich, pour conclure sur cette ville qui est pas, sans doute parmi les plus spectaculaires en la matière, de ces villes en train d'être submergées par les flots petit à petit, on commençait à évoquer aujourd'hui la façon dont les autorités prenaient conscience pour les 8 millions d'habitants qui vont rester à Jakarta de ce qui peut être entrepris. Est-ce que vous aviez là-dessus un mot à nous dire?
Ben, en poursuite de ce qui est dit là, c'est réfléchir aux conditions et aux modalités de gestion de l'eau, mais de manière très globale, et d'accès à l'eau des populations en tant que telles, au-delà des inondations. À Jakarta, c'est aussi la question de l'approvisionnement jusqu'à l'assainissement qui est posée. Et on a connu 20 ans de partenariat public-privé avec des très grandes entreprises qui géraient l'eau à Jakarta. Et finalement, la réponse, ça a été des associations qui se sont mobilisées pour demander et gagner, après 5 ans de bataille politique et judiciaire, la remunicipalisation de l'eau et faire en sorte qu'on se réapproprie ces éléments fondamentaux pour donner un meilleur accès à l'eau pour les populations.
Les populations ne sont jamais des masses inertes qui prennent ce qui est en train de se passer sans réagir, et à chaque fois c'est toujours très important de le rappeler. En l'occurrence, beaucoup essayent de faire en sorte que au-delà des promesses qui sont faites, il y a un vrai discours de vérité sur cette question de la montée des eaux et de la submersion. Merci beaucoup Sylvie Fanchette et Judy Caldietrich d'avoir été avec nous. Sylvie Fanchette, géographe, directrice de recherche à l'IRD et membre de l'UMR CESMA à Paris. Judy Caldietrich, maître de conférence en géographie à Lyon 3 et membre du laboratoire Environnement, Ville et Société. Vous étiez en duplex depuis Lyon et je remercie Chantal Nouvelot de vous avoir accueilli dans les studios de Radio France à Lyon. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce matin, dans l'est de la République démocratique du Congo, Catherine, où le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont lancé hier une nouvelle offensive.
Les rebelles du M23 avaient pourtant décrété un cessez-le-feu il y a deux jours, rappelle le site d'information congolais Actualité CD et l'agence de presse Barron's. Le groupe armé avait même assuré n'avoir aucune intention de prendre le contrôle d'autres localités après avoir conquis la ville de Goma. Le journal rwandais Inyarwanda préfère parler, lui, de libération de la capitale du Nord Kivu. Mais hier, explique la BBC, le M23 et les soldats rwandais ont refait parler les armes dans la province voisine du Sud Kivu. Intense combat et rapidement, selon Actualité CD, les rebelles se sont emparés de la cité minière de Niabiboué. Le M23 avance donc sur Bukavu, estime ABC News, la deuxième plus grande ville de l'est de la RDC, où vivent 1 million de Congolais, précise la BBC. La cité minière de Niabiboué, située à 100 km de cette grande ville de Bukavu, rappelle les intérêts économiques qui guident aussi les conflits actuellement, souligne la RTBF et le Brussels Times. L'est de la RDC est riche en minerais, dont le coltan. De ce dernier est extrait le tantale qui entre dans la fabrication des téléphones et ordinateurs portables, appareils photo et autres consoles de jeux. Le tantale dans un téléphone portable pèse à peine plus lourd que la moitié d'un petit pois, note la BBC, mais il pèse lourd dans les combats en RDC. Les revenus liés à l'exploitation minière permettent aux rebelles rappel du M23, de gagner au moins 800 000 dollars par mois, de payer leurs combattants et de se fournir en armes, alerte la BBC. Roubaïa, par exemple, la plus grande mine de coltan au monde en RDC, ressemble à une fourmilière, des dizaines et des dizaines de trous dans le sol où sont exploités aussi des milliers de Congolais et parfois des travailleurs chinois dans des conditions extrêmement dangereuses, rappelle la BBC. Accusé de profiter de ce commerce, le Rwanda réfute ces accusations. Les combats actuels en RDC répondent à une logique sécuritaire et non à des questions d'avidité, écrit le journal rwandais The New Times, avant un sommet prévu samedi entre les présidents congolais et rwandais.
En attendant, ce sont les civils qui souffrent et les femmes notamment.
165 femmes, au moins, ont été violées et brûlées vives lors de l'évasion de la prison de Mounzenze la semaine dernière à Goma, rapporte la BBC. On ne sait pas encore si les violeurs étaient des prisonniers évadés, des rebelles M23 ou des membres d'autres milices locales, ajoute la RTBF. L'ONU s'inquiète, en tout cas, des niveaux alarmants de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Dans le chaos de la guerre, souligne encore Radio Okapi, média congolais, des groupes armés ont commis pillages et viols dans le nord et le sud Kivu. 50 enfants, au moins, victimes de ces violences sexuelles. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit demain à Genève en session extraordinaire. En attendant, Goma compte ses morts, 2900 pour l'instant, selon le Guardian. Des cadavres jonchent les rues, raconte le New York Times et la BBC. Pas assez de médicaments pour les blessés, le choléra se déclare. Des entrepôts d'ONG ont été pillés. Pas assez d'électricité, ni d'eau, énumère le New York Times. Des centaines de Congolais s'aventurent donc jusqu'aux rives du lac Kivu pour puiser de l'eau en y ajoutant un peu de chlore pour tenter de tenir à distance les maladies. Je veux que la guerre se termine parce que nous souffrons beaucoup, explique Princesse Bachonga, entre deux remplissages d'eau dans des jerrycans. Cette habitante de Goma, interrogée par VOA Africa, la radio-télévision financée par le gouvernement des États-Unis, se plaint également de la faim qui la tenaille, du manque d'eau qui oblige donc à venir jusqu'ici au lac Kivu. Je veux vraiment que cette guerre s'arrête, que les gens se réconcilient, dit-elle encore, et qu'on puisse enfin travailler au développement. Au Rwanda, The New Times demande un peu d'introspection par ailleurs de la part de l'Occident, des entreprises qui profitent de l'extraction minière.
Et Paris, Catherine, devient la capitale mondiale de l'intelligence artificielle dès aujourd'hui avec un sommet où scientifiques, chefs d'État et patrons de la tech vont succéder pendant une semaine. Et vous faites donc un gros plan sur une découverte permise par l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle aide les chercheurs à lire un parchemin qui a brûlé il y a 2000 ans. C'était lors de l'éruption volcanique du Vésuve. Alors ce papyrus ressemble à un morceau de charbon de bois carbonisé, encre noire illisible, document bien trop fragile pour être déroulé physiquement, explique la BBC. Il risque de partir en miettes. Ce qui serait dommage pour un tel trésor récupéré parmi une vaste collection de rouleaux issus d'une somptueuse villa romaine d'Herculanum qui aurait appartenu au beau-père de Jules César, précise le Guardian. Alors certains de ces manuscrits sont conservés à la bibliothèque bodléienne, la plus prestigieuse université d'Oxford, et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Pour déplier virtuellement ce papyrus, pour révéler des lignes de texte, explique la BBC, rayon X, reconstruction 3D, détection de l'encre, peinte ensuite numériquement pour mettre les lettres en lumière, détaille encore le média public britannique. L'an dernier, 5% d'un autre rouleau d'Herculanum avait pu être lu par une équipe du Vesuvius Challenge, un concours qui a permis des progrès spectaculaires au niveau de ces papyrus, indique le Guardian. Trois jeunes chercheurs, âgés d'une vingtaine d'années seulement, avaient remporté le grand prix du Vesuvius Challenge. 700 000 euros à la clé. Ils ont permis de déchiffrer 2000 caractères des lettres de grec ancien.
Merci beaucoup Catherine Dutu pour votre vue presse internationale. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon, d'abord pour un retour d'Asie centrale avec le journaliste Cédric Gras qui est allé voir les fleuves de la mer d'Aral. Mer d'Aral qui s'est asséchée, ça rejoint le sujet de Culture Monde aujourd'hui. Table ronde ensuite sur la fin de l'USAID, l'agence du développement international liquidée par Elon Musk et par le gouvernement de Donald Trump. Mélanie Chalandon recevra François Grunewald et Vincent Pradier dans un instant les Midis de Culture.